Colabrognon de Romain Rolland, deuxième partie. Ensuite, nous échangeâmes, par-dessus les fossés, des injures bien plaisantes, à la façon d'Ajax et d'Hector le Troyen. Mais les nôtres étaient de plus moelleuse graisse. Je voudrais les noter, je n'en ai pas le temps. Je les noterai toutefois, patience, dans un recueil que je fais depuis 12 ans. Des meilleures facéties, paillardises, gaillardises que j'ai ouïes, dites ou lues. Ce serait dommage vraiment qu'elles fussent perdues au cours de mon pèlerinage en cette vallée de larmes. D'y penser seulement, j'ai le ventre secoué. Je viens, en écrivant, de faire un gros pâté. Quand nous eûmes bien crié, fallut agir. Agir après parler. Repose. Ni eux, ni nous, n'y tenions guère. Le coup était manqué pour eux, nous étions à l'abri. Ils n'avaient nulle envie d'escalader nos murs. On risque trop de se rompre les os. Cependant, s'agissait de faire, coûte que coûte, quelque chose, n'importe quoi. On brûla de la poudre, on déchargea des pétarades en veux-tu? En voilà. Nul n'en souffrit que les moineaux. Le dos au mur, au pied du parapet, assis en paix, nous attendions que les pruneaux eussent passé, pour décharger aussi les nôtres. Mais sans viser, il ne faut pas trop s'exposer. On ne se risquait à regarder que lorsqu'on entendait brailler leurs prisonniers. Ils étaient bien une douzaine, hommes et femmes de Béant, tous alignés, non pas la face, mais la pile tournée au mur, à qui l'on donnait la fessée. Il criait plus fort que l'anguille, mais le mal n'était pas grand. Pour nous venger, bien abrités, nous défilâmes tout le long de nos courtines, brandissant au-dessus des murs, embrochés au bout de nos piques, jambon, cervelas et boudin. Nous entendions les cris de rage et de désir des assiégeants. Nous nous en fîmes une pinte de bon sang. Et, pour n'en point perdre une goutte, lorsque tu tiens une bonne farce, jusqu'à la moelle ronge l'os. Le soir venu, nous installâmes sous le ciel clair, sur les talus, avec les murs pour paravent, table chargée de victuailles et de flacons. Nous banquetâmes à grand fracas, chantant, trinquant à la santé du mardi gras. Du coup, les autres en faillirent crever de fureur dans leur peau. Ainsi la journée se passa gentiment, sans trop de dégâts. Si ce n'est que l'un des nôtres, le gros guenot des Pousseaux, ayant voulu dans sa ribote se promener sur la muraille, le verre en main pour les narguer, eut d'une mousquetade sa cervelle et son verre mis en capilotade. Et de notre côté, nous en estropiâmes un ou deux en échange. Mais notre humeur n'en fut point altérée. Point de fête, on le sait, sans quelque pot cassé. Chamaï attendait la nuit pour sortir de la ville et pour rentrer chez lui. Nous avions beau lui dire « Ami, tu risques gros, attends plutôt la fin. Dieu se chargera bien de tes paroissiens. » Il répondait « Ma place est parmi mes agneaux. Je suis le bras de Dieu, et si je fais défaut, Dieu restera manchot. Il ne le sera point où je serai, j'en jure. » « je le crois, dis-je. Tu l'as prouvé lorsque les huguenots assiégeaient ton clocher et que tu assommas d'un gros moellon leur capitaine Papiphage. » « Il fut bien étonné, dit-il, le mécréant, et je le fus pareillement. Je suis bon homme et n'aime point avoir coulé le sang. C'est dégoûtant. Mais diable sait ce qui vous passe dans la carcasse quand on est parmi les fous. On devient loup. » Je dis, c'est vrai, il n'est rien de tel que d'être en foule pour n'avoir plus le sens commun. Sans sages font un fou, et sans moutons un loup. Mais dis-moi donc, curé, à ce propos, comment arranges-tu ensemble les deux morales? Celle de l'homme seul qui vit en tête à tête avec sa conscience et demande la paix pour lui et pour les autres, est la morale des troupeaux d'hommes, des États, qui font de la guerre et du crime une vertu. Laquelle vient de Dieu ? Belle question, Barbleu. Toutes les deux, tout vient de Dieu. Alors, il ne sait ce qu'il veut. Mais je crois bien plutôt qu'il le sait et ne peut. N'a-t-il affaire qu'à l'homme isolé ? C'est facile. Il lui est fort aisé de se faire obéir. Mais quand l'homme est en troupe, Dieu n'emmène pas large. Que peut un seul contre tous ? Alors, l'homme est livré à la terre, sa mère, qui lui souffle son esprit carnassier. Tu te souviens du conte de chez nous, où des hommes, à certains jours, sont loups, et puis ils rentrent dans leur peau. Nos vieux contes en savent plus long que ton bréviaire, mon curé. Chaque homme dans l'État reprend sa peau de loup. Et les États, les rois, leurs ministres, ont beau s'habiller en berger, et les fourbes se dire cousins du grand berger, du tien, du bon pasteur, ils sont tous loups cerviers, taureaux, gueules et ventres, que rien ne peut combler. Et pourquoi ? Pour nourrir la faim immense de la terre. Tu divagues, païen, dit Chamaï. Les loups viennent de Dieu, comme le reste. Il a tout fait pour notre bien. Ne sais-tu pas que c'est Jésus qui, nous dit-on, créa le loup, afin de défendre les choux qui poussaient dans le jardinet de la Vierge, sa sainte mère, contre les chèvres et les cabris ? Il eut raison, inclinons-nous. Nous nous plaignons toujours des forts. Mais, mon ami, si les faibles devenaient rois, ce serait encore bien pis. Conclusion, tout est bon, les loups et les moutons. Les moutons ont besoin des loups pour les garder, et les loups des moutons, car il faut bien manger. Là-dessus, mon cola, je vas garder mes choux. Sa soutane il troussa, son gourdin empoigna, et dans la nuit sans lune, il partit, en m'ayant avec émotion confié Madelon. Les jours suivants, ce fut moins gai. Nous avions sottement baffré le premier soir, sans compter, par goinfrerie, forfanterie et par stupidité. Et nos provisions étaient plus qu'écornées. Il fallut se serrer le ventre, on le serra. Mais on crânait toujours. Quand les boudins furent mangés, on en fabriqua d'autres. Des boyaux rembourrés de son, des cordes trempées de goudron, qu'on promenait sur des harpons à la barbe de l'ennemi. Mais le drôle éventa la ruse. Une balle trancha l'un des boudins au beau milieu. Et qui rit le plus fort alors ? Ce ne fut pas nous. Pour nous achever, ces brigands, nous voyant pêcher à la ligne du haut des murs dans la rivière, imaginèrent, aux écluses amont, aval, de poser de grands filets pour intercepter la friture. En vain, notre archiprêtre objurga ces mauvais chrétiens de nous laisser faire carême. Faute de maigre, il fallut bien vivre sur notre lard. Nous aurions pu, sans doute, implorer le secours de monsieur de Nevers. Mais, pour ne rien cacher, nous n'étions pas pressés d'héberger de nouveau ses troupes. Il nous en coûtait moins d'avoir les ennemis devant nos murs que dedans, les amis. Aussi, tant qu'on pouvait se passer d'eux, on se taisait. C'était le mieux. Et l'ennemi, de son côté, était assez discret pour ne les point mander. On préférait s'entendre à deux, sans un troisième. On ouvrit donc, sans se presser, les pourparlers. Et cependant, dans les deux camps, on menait une vie très sage, se couchant tôt, se levant tard, et tout le jour jouant aux boules, aux bouchons, bâillant d'ennui plus que de faim, et sommeillant tant et si bien qu'en jeûnant, nous engraissâmes. On remuait le moins possible. Mais il était bien difficile de tenir aussi les enfants. Ces garnements, toujours courants, piaillants, riant, en mouvement, ne cessaient point de s'exposer, grimpant au mur, tirant la langue à l'assiégeant, le bombardant à coups de pierre. Ils avaient une artillerie de seringues en sureau, de frondes à ficelles, de bâtons refendus, attrape-ci, attrape-ça, v'lant dans le tas. et nos singes hurlaient de rire. Et furieux, les lapidés juraient de les exterminer. On nous cria que le premier des polissons qui sur les murs montrerait le bout de son nez serait arquebusé. Nous promîmes de les surveiller. Mais nous avions beau leur allonger les oreilles et leur faire la grosse voix, ils nous filaient entre les doigts. Et le plus fort, j'en tremble encore, fut qu'un beau soir, j'entends un cri. C'était Glody. Non, qui l'eût dit? C'est tout qui dort, sainte Nitouche. Ah, la matine, mon trésor. Qui du talus dans le fossé venait de faire le plongeon. Dieu bon, je l'aurais fouetté. Sur les murs, je ne fis qu'un bond, et tous, penchés, nous regardions. L'ennemi aurait eu beau jeu s'il eût voulu de nous pour cible. Mais, comme nous, il regardait au fond du fossé ma chérie, qui, la Sainte Vierge soit bénie, avait roulé douillettement comme un chaton, et, sans autrement s'effarer, assise dans l'herbe fleurie, levait la tête vers les têtes qui se penchaient des deux côtés, leur faisait la risette et cueillait un bouquet. Tous lui riaient aussi. Monseigneur de Ragny, le commandant de l'ennemi, défendit que l'on fît aucun mal à l'enfant. Et même, il lui jeta, brave homme, son drageoir. Mais pendant qu'on était occupé de Glody, Martine, on n'en finit jamais avec les femmes, pour sauver sa brebis, tout le long du talus dégringolait aussi, courant, glissant, roulant, la jupe jusqu'au cou retroussé et montrant à tous les assiégeants, fièrement, son orient, son occident, les quatre points du firmament et l'autre au ciel resplendissant. Son succès fut éclatant. Elle n'en fut intimidée, prit sa Glody et l'embrassa et la claqua. Enthousiasmé par ses appâts, n'écoutant pas son capitaine, un grand soldat dans le fossé bondit et vint à elle tout en courant. Elle attendit. De nos remparts, nous lui jetâmes un balai. Elle l'empoigna, et bravement sur l'ennemi, elle marcha. Et tric et trac, pati patac, le galant n'en menait pas large. Et tu es rue, il décampa. Sonnez trompettes et clairons. On hissa la triomphatrice avec l'enfant parmi les rires des deux camps. Et je tirai, fier comme un paon, la corde au bout de laquelle montait ma gaillarde qui exposait à l'ennemi l'astre des nuits. On mit une semaine encore à discuter. Toutes les occasions sont bonnes pour causer. Le faux bruit de l'approche de monsieur de Nevers nous mit enfin d'accord. Et l'entente se fit, en somme, à bon marché. Nous promîmes à ceux de Vézelay la dîme des vendanges prochaines. Fait bon promettre ce qu'on a, ce qu'on aura. On ne l'aura peut-être pas. Dans tous les cas, sous les ponts l'eau passera et du vin dans notre estomac. Des deux côtés, nous étions donc bien satisfaits les uns des autres, et de nous beaucoup plus encore. Mais à peine sortis de l'averse, nous vint nouvelle pluie. Ce fut dans la nuit justement qui suivit le traité qu'aux cieux parut un signe. Sur les 10 heures, il sortit de derrière Sambert, où il était tapis, et, glissant dans le pré des étoiles, vers Saint-Pierre-du-Mont, comme un serpent, il s'allongea. Il semblait une épée dont la pointe était une torche, avec des langues de fumée. Et une main tenait le manche, dont les seins doigts se terminaient par des têtes hurlantes. On distinguait à l'annulaire une femme dont les cheveux flottaient au vent, et la largeur, à la poignée de l'épée, était d'un empan. 7 à 8 lignes à la pointe, 3 lignes et 2 pouces en son milieu, exactement. Et sa couleur était sanglante, violacée, tuméfiée, ainsi qu'une blessure au flanc. Toutes nos têtes, vers le ciel, la bouche bée, étaient levées. On entendait claquer les dents, et les deux camps se demandaient lequel des deux était visé par le présage. Et nous étions bien convaincus que c'était l'autre. Mais tous avaient la chair de poule. Excepté moi, je n'eus point peur. Il faut dire que je ne vis rien. J'étais couché depuis 9 heures. M'étais couché pour obéir à l'almanach, car c'était la date indiquée, afin de prendre médecine. Et où qu'on soit, quand l'almanach commande, je m'exécute sans réplique, car c'est parole d'évangile. Mais comme on m'a tout raconté, c'est comme si je l'avais vu. Je l'ai noté. Après que la paix fut signée, ennemis et amis, ensemble, on banqueta. Et comme était venu alors l'ami Carême, jeûne rompu, on s'en donna. Des villages des environs nous arrivèrent à foison pour fêter notre délivrance, les mangeailles et les mangeurs. Ce fut une belle journée. Tout le long des remparts, la table était dressée. On y servit 3 marcassins, rôtis entiers et rembourrés d'un hachis épicé d'abats de sanglier et de foie de héron, des jambons parfumés, fumés dans l'âtre avec des branches de genévrier, des pâtés de lièvre et de porc, embaumés d'ail et de laurier, des andouillettes et des tripes, des brochets et des escargots, du gras double, de noir civet, qui, devant qu'on en eût tâté, vous grisait par le nez, et des têtes de veau qui fondaient sous la langue, et des buissons ardents d'écrevisses poivrées qui vous embrasaient le gosier. Et là-dessus, pour l'apaiser, des salades à l'échalote vinaigrée, et de fières lampées des crus de la chapote, de mandre, de veau filloux. Et pour dessert, le blanc caillé, frais, granuleux, qui s'écrasait entre la langue et le palais, et des biscuits qui vous torchaient un verre plein comme une éponge d'un seul coup. Aucun de nous ne lâcha pied tant qu'il resta de quoi baffrer. Loué soit Dieu qui nous donna de pouvoir en si peu d'espace, dans le sac de notre estomac, empiler flacons et plats. Surtout la joute fut belle entre l'ermite Courte-Oreille de Saint-Martin de Vézelay, qui les Vézeliens escortaient, ce grand observateur qui le premier, dit-on, nota qu'un âne ne peut braire s'il n'a la queue en l'air. Et le nôtre, je ne dis âne, dont Hennequin, qui prétendait qu'il avait dû jadis être carpe ou brochet, tant il avait des goûts de l'eau, pour en avoir trop bu sans doute, en l'autre vie. Bref, quand nous sortîmes de table, Vézelien éclame si quoi, nous avions les uns pour les autres bien plus d'estime qu'au potage. C'est au manger que l'on en prend ce que vaut l'homme. Qui aime ce qui est bon, je l'aime, il est bon bourguignon. Enfin, pour achever de nous mettre d'accord, nous digérions notre dîner, lorsque parurent les renforts que M. de Nevers envoyait pour nous protéger. Nous rîmes bien, et nos deux camps, très poliment, les prièrent de s'en retourner. Ils n'osèrent pas insister, et s'en allèrent tout penauds, comme chiens que brebis font paître. Et nous disions, nous embrassant, « Étions-nous bêtes de nous battre pour le profit de nos gardiens? Si nous n'avions pas d'ennemis, ils en inventeraient parbleu pour nous défendre. Grand merci, Dieu nous sauve de nos sauveurs. Nous nous sauverons bien tout seuls, pauvres moutons. Si nous n'avions à nous défendre que du loup, nous saurions bien nous en garder. Mais qui nous gardera du berger ?» Chapitre 3. Le curé de Brève. Prime avril. Aussitôt que les chemins furent débarrassés de ces visiteurs importuns, je résolus de m'en aller, sans plus tarder, voir mon chamaï en son village. Je n'étais pas bien inquiet de ce qu'il était advenu. Le gaillard sait se défendre. N'importe, on est plus tranquille lorsqu'on a vu avec ses yeux l'ami lointain. Et puis, il me fallait me dégourdir les jambes. Je partis donc sans en rien dire, et je suivais en sifflotant le long du bord de la rivière qui s'étire au pied des collines boisées. Sur les feuilles nouvelettes s'égrenaient les gouttelettes d'une petite pluie bénie, pleure du printemps, qui se taisait quelques moments, puis reprenait tranquillement. Dans les futaies, un écureuil amoureux miaulait. Dans les prés, les oies jabotaient. Les merles s'en donnaient à gorge, que veux-tu, et la petite serrurière faisait son « titiput ». Sur le chemin, je décidai de m'arrêter pour aller prendre à Dorceny mon autre ami, le notaire, maître Paillard. De même que les Grâces, nous ne sommes au complet qu'à trois. Je le trouvai dans son étude, qui griffonnait sur ses minutes le temps qu'il faisait, les rêves qu'il avait eus et ses vues sur la politique. Auprès de lui était ouvert, à côté du « De Legibus », le livre des prophéties de Monsieur Nostradamus. Quand on est toute sa vie calfeutré dans son logis, l'esprit prend sa revanche et ne s'en va que mieux dans les plaines du rêve et les taillis du souvenir. Et, faute de pouvoir diriger la machine ronde, il lit dans l'avenir ce qu'il adviendra du monde. « Tout est écrit, dit-on. » Je le crois. Mais j'avoue que je n'ai jamais réussi à lire dans les centuries l'avenir que lorsqu'il était accompli. En me voyant, le bon Paillard s'épanouit, et la maison, du haut en bas, retentit de nos éclats. Il me réjouit à regarder le petit homme, bedonnant, face grêlée, de larges joues, nez coloré, les yeux plissés, vifs et rusés, l'air renfrogné et bougonnant contre le temps, contre les gens, mais dans le fond très bon plaisant, toujours raillant et beaucoup plus farceur que moi. C'est son bonheur de vous lâcher d'un air sévère une énorme calembredaine. Et grave, il est beau à voir, à table, avec la bouteille, invoquant Comus et Momus et entonnant sa chansonnette. Tout content de m'avoir, il me tenait les mains dans ses mains, grosses et gourdes, mais comme lui, maligne, adroite diablement à tripoter les instruments, limer, rogner, relier, me nuiser. Il a tout fait dans sa maison. Et le tout n'est pas beau, mais le tout est de lui, et beau ou laid, c'est son portrait. Pour n'en point perdre l'habitude, il se plaignit de ci, de ça, et moi, par contradiction, je trouvais bon, et ça, et si. Il est, lui, le docteur tant pis, et moi, tant mieux. C'est notre jeu. Il grogna contre ses clients, et sans doute il faut avouer qu'ils mettent peu d'empressement à le payer, car certaines de ses créances remontent à 35 ans. Et bien qu'intéressé, il ne se hâte point de les faire rentrer. Les autres, s'ils s'acquittent, c'est par hasard, quand ils y pensent. En nature, un panier d'œufs, une paire de poulets. C'est la coutume, et l'on trouverait offensant qu'il réclamât son argent. Il grognait, mais il laissait faire, et je crois qu'à leur place, il en eût fait autant. Heureusement pour lui, son bien lui suffisait, une fortune rondelette et qui faisait des œufs. Peu de besoin, un vieux garçon, ne chassons pas les cotillons. Et pour les plaisirs de la table, nature y a pourvu chez nous. La table est mise dans nos champs. Nos vignes, nos vergers, nos viviers, nos clapiers sont d'abondants garde-manger. Sa plus grande dépense était pour ses bouquins, qu'il montrait, mais de loin, car l'animal n'est point prêteur. Et pour une manie qu'il a de regarder la lune, polisson, avec ses lunettes qui sont nouvellement de Hollande venues. Il s'est dans son grenier, dessus son toit, parmi les cheminées, aménagé une plateforme branlante, d'où il observe gravement le firmament tournant. Il s'efforce d'y déchiffrer, sans y trop rien comprendre, l'alphabet de nos destinées. Au reste, il n'y croit pas, mais il aime à y croire. En quoi je le comprends? On a plaisir de sa fenêtre à voir passer les feux du ciel, comme en la rue les demoiselles. On leur prête des aventures, des intrigues, un roman. Et vrai ou non, c'est amusant. Nous discutâmes longuement sur le prodige, sur l'épée de feu sanglant dans la nuit brandie le mercredi d'avant. Et chacun expliquait le signe à sa façon. Bien entendu, chacun soutenait, mordicus, que seul son sens était le bon. Mais à la fin, nous découvrîmes que lui ni moi n'avions rien vu, car ce soir-là, mon astrologue, justement, avait fait un somme devant son instrument. Du moment que l'on n'est plus seul à avoir été sot, on en prend son parti. Nous le prîmes joyeusement. Et nous sortîmes, bien décidés à n'en rien confesser au curé. Nous allâmes à travers champs, examinant les jeunes pousses, les fuseaux roses des buissons, les oiseaux qui faisaient leur nid, et sur la plaine un épervier, comme une roue aux cieux tournants. Nous nous contions, en riant, la bonne farce que naguère à Chamaï nous avions faite. Pendant des mois, Paillard et moi, nous avions sué sang et eau afin d'apprendre à un gros merle mis en cage un chant huguenot. Après quoi, nous l'avions lâché dans le jardin de mon curé. S'y trouvant bien, il s'était fait le magistère des autres merles du village. Et Chamaï, que leur chorale venait troubler quand il lisait son bréviaire, se signait, sacré, croyait que le diable était lâché dans son jardin, l'exorcisait et, de rage, embusqué derrière son volet, arquebusait l'esprit malin. Il n'en était point dupe, d'ailleurs, tout à fait, car lorsqu'il avait tué le diable, il le mangeait. Tout en causant, nous arrivâmes. Brève semblait dormir. Les maisons sur la route bâillaient, portes ouvertes, au soleil du printemps et au nez des passants. Aucun visage humain. Qu'au rebord d'un fossé, le derrière d'un marmot, qui se donnait de l'air et qui faisait de l'eau. Mais à mesure que Paillard et moi, nous tenant par le bras, avancions en devisant vers le centre du bourg, par le chemin jonché de pailles et de bouses, montait un ronflement d'abeilles irritées. Et quand nous débouchâmes sur la place de l'église, nous la trouvâmes pleine de gens gesticulants, pérorants et piaillants. Au milieu, sur le seuil de la porte entr'ouverte du jardin de la cure, Chamaï, cramoisi de colère, braillait en montrant les deux poings à tous ses paroissiens. Nous tâchions de comprendre, mais nous n'entendions rien qu'un tumulte de voix. « Chenilles et chenillots, hannetons et mulots, cum spiritu tuo !» Et Chamaï criait « Non, non, je n'irai pas !» Et la foule « Sacré nom, es-tu notre curé? Réponds-nous, oui ou non, si tu l'es, et tu l'es, c'est pour que tu nous serves. » Et Chamaï « Faquin, je sers Dieu, non pas vous !» Ce fut un beau tapage. Chamaï, pour en finir, plaqua l'huisse au visage de ses administrés. Au travers de la grille, on vit encore ses deux mains s'agiter, dont l'une, par habitude, répandait sur son peuple onctueusement la pluie de la bénédiction, et dont l'autre levait sur la terre le tonnerre de la malédiction. Une dernière fois, à la fenêtre de la maison, parut son ventre rond et sa face carrée, qui, ne pouvant se faire entendre au milieu des huées, répliqua rageusement avec un pied de nez. Là-dessus, volet clos et visage de bois. Les crieurs se lassèrent. La place se vida, et, nous glissant derrière les badauds clairsemés, nous pûmes enfin à l'huisse de Chamaï frapper. Nous frappâmes longtemps. L'animal entêté ne voulait pas ouvrir. Hé, monsieur le curé ! Nous avions beau héler, nous déguisions nos voix afin de nous amuser. Maître Chamaï, êtes-vous là ? Au diable, je n'y suis pas ! Et comme nous insistions, « Voulez-vous lever le camp? Si vous ne laissez ma porte, je vais, bougre de chien, vous baptiser de belle sorte !» Il faillit sur nos dos verser son pot à eau. Nous criâmes « Chamaï, au moins verse du vin !» À ces mots, par miracle, l'orage s'apaisa. Rouge comme un soleil, la bonne figure réjouie de Chamaï se pencha. « Nom d'un petit bonhomme, Brugnon, Paillard, c'est vous ?» J'allais en faire de belles. Ah, les sacrés farceurs, que ne le disiez-vous ? Notre homme, quatre à quatre, dégringole ses marches. Entrez, entrez, béni, ça, que je vous embrasse. Bonnes gens, que je suis aise de voir figure humaine après tous ces babouins. Avez-vous assisté à la danse qu'il faisait ? Qu'ils dansent tant qu'il leur plaît, je ne bougerai pas. Montez, nous allons boire. Vous devez avoir chaud. Vouloir me faire sortir avec le Saint-Sacrement. Il va pleuvoir tantôt. Nous serions, le bon Dieu et moi, trempés comme des soupes. Sommes-nous à leur service? Suis-je un valet de ferme? Traiter l'homme de Dieu en manant? Sacripant. Je suis fait pour curer leurs âmes et non leurs chants. Ah, ça, demanda Mnou, qu'est-ce que tu nous chantes? À qui diable en as-tu? Montez, montez, dit-il, là-haut nous serons mieux. Mais d'abord, il faut boire. Je n'en puis plus, j'étouffe. Que dites-vous de ce vin? Certes, il n'est point des pires. Croiriez-vous, mes amis, que ces animaux-là avaient la prétention de me faire, tous les jours, faire les rogations, des Pâques? Pourquoi pas depuis les rois jusqu'à la circoncision? Et cela pour des hannetons. Des hannetons? Dit Menou. Sûrement quelques-uns te sont restés pour compte. Tu divagues, chamaille. Je ne divague point, cria-t-il indigné. Cela c'est trop fort. C'est moi qui suis en butte à toute leur folie, et c'est moi qui suis fou. Alors, explique-toi en homme pondéré. Vous me feriez damner, fit-il en s'épongeant de fureur. Il faudrait que je restasse calme quand on nous tarabuste, moi et Dieu. Dieu et moi, toute la sainte journée, pour que nous nous prêtions à leur bivezée. Or, sachez, ouf, j'étoufferai, c'est sûr, que ces païens qui se soucient comme d'une guigne de la vie éternelle et ne lavent pas plus leur rame que leurs pieds, exigent de leur curé la pluie et le beau temps. Il faut que je commande au soleil, à la lune. Un peu de chaud, de l'eau, assez, pas trop n'en faut, un petit soleil doux, moelleux, enveloppé, une brise légère, surtout pas de gelée, encore une arrosée. Seigneur, c'est pour ma vigne. Arrête, assez pissé, à présent il me faut un petit coup de feu. Entendre ces marauds, il semblerait que Dieu n'ait rien de mieux à faire, sous le fouet de la prière, que l'âne du jardinier, attaché à sa meule, qui fait monter de l'eau. Encore, c'est le plus beau. Ne s'entendent-ils pas entre eux? L'un veut la pluie, quand l'autre veut le soleil. Et les voilà qui lancent les seins à la rescousse. Ils sont 37 là-haut qui font de l'eau. Marche en tête, lance en main, Saint-Médard, grand Pissard. De l'autre part, ils ne sont que deux, Saint-Raymond et Saint-Dié, qui dissipent les nuées. Mais viennent en renfort Saint-Blaise, Chassevent, Christophe, Paregrel, Valérien avale orage, Aurélien tranche tonnerre, Saint-Clair fait le temps clair. La Disgorde est au ciel, tous ces grands personnages se flanquent des Orions. Et voici Sainte-Suzanne, Hélène et Scolastique qui se prennent au chignon. Le bon Dieu ne sait plus à quel saint se vouer. Et si Dieu n'en sait rien, que saura son curé? Pauvre curé! Enfin, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis là que pour transmettre les prières. Et l'exécution regarde le patron. Aussi ne dirai-je rien. Quoique cette idolâtrie entre nous me dégoûte. Mon doux Seigneur Jésus, êtes-vous mort en vain? Si du moins ces vauriens ne voulaient me mêler aux querelles du ciel. Mais ils sont enragés. Ils prétendent se servir de moi et de la croix, comme d'un talisman, contre toutes les vermines qui dévorent leurs champs. Un jour, c'est pour les rats qui rongent les grains des granges. Procession, exorcisme, prière à Saint-Nicaise. Jour glacé de décembre, de la neige jusqu'au dos, j'y pris un lumbago. Ensuite, pour les chenilles. Prière à Sainte-Gertrude, procession. C'est en mars, giboulée, neige fondue, pluie gelée, j'attrape un enrouement, je tousse depuis ce temps. Aujourd'hui, les hannetons. Encore une procession. Il faudrait que je fisse le tour de leur verger. Un gros soleil de plomb, des nuages pansus et bleu-noirs comme des mouches, un orage qui mitonne, je reviendrai avec un bon chaud refroidi, en chantant le verset « Ibic equiderunt, fauteur d'iniquité, adque expulsisunt, et non pas pu stare. » Mais c'est moi qui serai proprement expulsé. « Ibic equidit, chamaille baptiste, dit Dulcis, curé. Non, 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 grand merci, je ne suis pas pressé. On se lasse à la fin des meilleures plaisanteries. Est-ce à moi, s'il vous plaît, d'échenier leurs chants? Si les hannetons les gênent, qu'ils se déshannetonnent eux-mêmes, ces feignants. Aide-toi, et le ciel t'aidera. Ce serait trop commode de se croiser les bras et de dire au curé « Fais ceci, fais cela !» Je ferai ce qu'il plaît à Dieu, et moi, je bois. Je bois. Faites de même. Quant à eux, qu'ils m'assiègent, s'ils veulent. Je n'en ai cure, compagnon, et je jure qu'ils lèveront plutôt le siège de ma maison que je ne lèverai le mien de ce fauteuil. Buvons. » Il but, exténué par sa grande dépense de souffle et d'éloquence. Et nous, ainsi que lui, levâmes notre verre dessus notre goulet, regardant au travers le ciel et notre sort, qui nous paraissait rose. Pendant quelques minutes, le silence régna. Seul, Paillard, qui claquait de la langue, et Chamaille, dans le gros coude qui le vin faisait, glou-glou. Il buvait d'un seul trait, Paillard, à petits coups. Chamaille, quand le flot tombait au fond du trou, faisait « Ah !» en levant ses yeux au firmament. Paillard regardait son verre, par-dessus, par-dessous, à l'ombre et au soleil, le humait, reniflait, buvait du nez, de l'œil, autant que du palais. Pour moi, je savourais ensemble le breuvage et les buveurs. Ma joie s'augmentait de la leur et de les observer. Boire et voir font la paire, c'est un morceau de roi. Je n'en faisais pas moins, prompt et preste, mon verre. Et tous trois, bien au pas, point de retardataire. Qui le croirait pourtant? Quand nous fîmes le compte, celui qui arriva premier à la barrière, d'une bonne lampée, fut monsieur le notaire. Après que la rosée de cave eut humecté doucement nos gésiers et rendu la souplesse aux esprits animaux, nos âmes s'épanouirent, et nos faces aussi. À la fenêtre ouverte, accoudés, attendris, nous regardions avec extase dans les champs le printemps nouveau, le gai soleil sur les fuseaux des peupliers qui se remplument, au creux du val, l'ionne cachée qui tourne et tourne dans les prés, comme un jeune chien qui se joue, et d'où montait à nous l'écho des battoirs et des laveuses et des cannes cacardeuses. Et Chamaille, déridé, disait en nous pinçant le bras « Qu'il fait bon vivre en ce pays! Que le Dieu du ciel soit béni, qui tous trois nous fit naître ici! Se peut-il rien de plus mignon, de plus riant, de plus touchant, attendrissant, appétissant, gras, moelleux et gracieux? On en a les larmes aux yeux. On voudrait le manger, le gueux. » Nous approuvions du menton, lorsque soudain il repartit. Mais pourquoi diable eut-il l'idée là-haut de faire en ce pays pousser ces animaux-ci? Il eut raison, c'est entendu. Il sait ce qu'il fait, il faut croire, mais je préférerais, je l'avoue, qu'il eût tort, et que mes paroissiens fussent au diable, où l'on voudra, chez les Incas ou le Grand Turc, je ne m'en soucie, pourvu qu'il soit ailleurs qu'ici. Nous lui dîmes, « Chamaille, ils sont pourtant les mêmes, autant ceux-ci que d'autres, à quoi sert de changer ?»« C'est donc, reprit Chamaille, qu'ils ont été créés, non pour être sauvés par moi, mais se sauver en me forçant à faire pénitence sur terre. Convenez, mes compères, convenez qu'il n'est guère métier plus misérable que celui d'un curé de campagne, qui sue à faire entrer les saintes vérités dans le crâne endurci de ces pauvres hébétés. On a beau les nourrir du suc de l'évangile et faire à leurs bambins téter le catéchisme, le fait à peine entré leur ressort par le nez. Faux à ces grands gousiers plus grossières pâtées. Quand ils ont mâchonné quelque temps un ave, d'un coin de bouche à l'autre promené litanie, ou, pour s'entendre braire, chanter vêpres et complis, rien des sacrées paroles ne passe le parvis de leur gueule assoiffée. Le cœur ni l'estomac n'en reçoit quasi rien. Après comme devant, ils restent purs païens. En vain, depuis des siècles, nous extirpons des champs, des ruisseaux, des forêts, les génies et les fées. Vainement nous soufflons à en faire éclater nos joues et nos poumons. Nous soufflons, ressoufflons ces flambeaux infernaux, afin que, dans la nuit plus noire de l'univers, la lumière du vrai Dieu seul se fasse voir. Jamais on n'a pu tuer ces esprits de la terre, ces sales superstitions, cette âme de la matière. Les vieilles souches des chênes, les noires pierres qui virent, continuent d'abriter cette engeance satanique. Combien nous en avons pourtant brisé, taillé, pillé, brûlé, déraciné. Il faudrait retourner chaque motte, chaque pierre, la terre tout entière de la Gaule, notre mère, pour finir d'arracher les diables qu'elle a au corps. On n'y arriverait même pas. Cette damnée nature nous glisse entre les mains. Vous lui coupez les pattes, il repousse des ailes. Pour chaque dieu qu'on tue, il en renaît 10 autres. Tout est dieu, tout est diable pour ces abrutis-là. Ils croient au loup-garou, au cheval blanc sans tête et à la poule noire, au grand serpent humain, au lutin fouletot et au canard sorcier. Mais dites-moi, je vous prie, la tête que doit faire au milieu de ces monstres éclopés, échappé de l'arche de Noé, le doux fils de Marie et du pieux charpentier. Mon paillard répondit, « Compère, œil un autre œil, vois et non sois. Tes paroissiens sont fous, c'est certain. Mais toi, es-tu plus saint? Curé, tu n'as rien à dire, car tu fais tout comme eux. Tes saints valent-ils mieux que leurs lutins et leurs fées? Ce n'était pas assez d'avoir un dieu en 3, ou 3 qui en font 1, et la déesse mère, il a fallu loger dans votre panthéon un tas de petits dieux en chausses et en jupons, afin de remplacer ceux qui étaient brisés et de remplir les niches que vous aviez vidées. Mais ces dieux, non, vrais dieux, ne valent pas les vieux. On ne sait d'où ils viennent, ils en sortent de partout, comme des limaçons. Tous mal faits, gens de peu, poicres, stropias, mal lavés, couverts de plaies et bosses et mangés de vermine. L'un exhibe un moignon qui saigne, ou sur sa cuisse un ulcère luisant. L'autre coquettement porte sur son chignon enfoncé un tranchoir. Celui-ci se promène la tête sous le bras. Celui-là, tout glorieux, entre ses doigts secoue sa peau comme une chemise. Et sans aller si loin, que dirons-nous, curé, de ton saint, de celui qui trône en ton église, le stylite Simon, qui pendant 40 ans se tint sur une jambe, au sommet d'un pilier, à l'instar d'un héron. Shammai sursauta et cria, « Halte là ! Passe encore pour les autres saints, je ne suis pas chargé de les garder. Mais païen, celui-là, c'est le mien, je suis chez lui, mon ami, sois poli. » « Laissons donc, je suis ton hôte, sur sa patte ton échassier. Mais dis-moi ce que tu penses de l'abbé de Corbigny, qui prétend avoir en bouteille du lait de la très sainte Vierge. Et dis-moi que te semble aussi monsieur de Sermizel, qui un jour, ayant la courante, s'administra de l'eau bénite et de la poudre de relique en tisane de lavement. « Ce que j'en pense, dit Shammai, c'est que toi-même, toi qui railles, si tu souffrais du fondement, tu en ferais peut-être autant. Quant à l'abbé de Corbigny, tous ces moines, pour nous prendre la pratique, tiendraient boutique, s'ils le pouvaient, de lait d'archange, de crème d'ange et de beurre de séraphin. Ne parle pas de ces gens-là. Moines et curés, c'est chien et chat. Alors, curé, tu n'y crois pas, à ces reliques? Non, pas aux leurs. Je crois aux miennes. J'ai l'os acromion de sainte Diétrine, qui éclaircit l'urine et le teint des diétreux. Et j'ai le bregmatis carré de sainte Étoupe, qui chasse les démons des ventres des moutons. Veux-tu bien ne pas rire? Parpaillot, tu te gausses. Tu ne crois donc à rien. J'ai les titres ici. Aveugle qui en doute, je m'en vais les chercher. Sur parchemin signé. Tu verras leur authenticité. Reste assis et laisse tes papiers. Tu n'y crois pas non plus, Shammai, ton nez bouge. Quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, un os sera toujours un os, et qu'il adore, un idolâtre. Chaque chose en sa place, les morts au cimetière. Moi, je crois aux vivants. Je crois qu'il fait grand jour, que je bois et raisonne fort bien, que 2 et 2 font 4, que la terre est un astre immobile et perdu dans l'espace tournant. Je crois en Guy Coquille, et puis te réciter, si tu veux, tout du long, le recueil des coutumes de notre Nivernois. Je crois aussi au livre, où la science de l'homme et son expérience goutte à goutte se filtrent. Par-dessus tout, je crois en mon entendement. Et, cela va sans dire, je crois également en la sacrée parole. Il n'est d'homme prudent et sage d'en douter. Es-tu content, curé ?
Non, je ne le suis pas,
s'écria Chamaille, tout de bon irrité. Es-tu calvinien, hérétique, huguenot, qui marmonne la Bible, en remontre à sa mère l'Église, et qui prétend, fausse couvée de vipère, se passer de curé ? À son tour, se fâcha mon paillard, protestant qu'il ne permettait pas qu'on le dît protestant, qu'il était bon François, catholique de poids, mais homme de bon sens, et qui n'est point manchot de l'esprit ni des poings, qui voit clair à midi sans mettre ses lunettes, et qui nomme un sot, et Chamaille 3 sauts en 1, ou 1 en 3, comme il voudra. Et pour honorer Dieu, honore sa raison, qui du grand luminaire est le plus beau rayon. Là-dessus, ils se turent et burent, en grognant et boudant, accoudés sur la table tous deux, et se tournant le dos. Moi, j'éclatais de rire. Alors, ils s'aperçurent que je n'avais rien dit, et je le remarquai moi-même à cet instant. Jusque-là, j'étais occupé à les voir, à les écouter, en m'amusant des arguments, en les mimant des yeux, du front, en répétant tout bas les mots, en remuant sans bruit la bouche, comme un lapin qui mâche un chou. Mais les 2 enragés parleurs me sommèrent de déclarer pour lequel des 2 j'étais. Je répondis « Pour tous les 2, et pour quelques autres encore. N'en est-il plus à discourir ? Plus on est de fous, plus on rit, et plus on rit, plus on est sage. Mes compères, quand vous voulez savoir ce que vous possédez, vous commencez par aligner sur une page tous vos chiffres, après vous les additionnez. Pourquoi donc ne pas mettre au bout l'une de l'autre vos lubies ? Toutes ensemble font peut-être la vérité. La vérité vous fait la nique quand vous voulez l'accaparer. Le monde, enfant, a plus d'une explication, car chacune n'explique qu'un côté de la question. Je suis pour tous vos dieux, les païens, les chrétiens, et pour le dieu raison par-dessus le marché. » À ces mots, tous les 2 s'unissant contre moi, courroucés, m'appelèrent pyrrhonien et athée. « Athée ? Que vous faut-il ? Que voulez-vous de moi ? Votre dieu ou vos dieux ? Votre loi ou vos lois veulent venir chez moi ? Qu'ils viennent, je les reçois. Je reçois tout le monde, je suis hospitalier. Le bon Dieu me plaît fort, et ses saints encore plus. Je les aime, les honore, et leur fais la risette. Et, ce sont bonnes gens, ils ne refusent pas de venir avec moi faire un bout de causette. Mais pour vous parler franc, un seul Dieu, je l'avoue, je n'en ai pas assez. Qu'y faire ? Je suis gourmand. On me met à la diète. J'ai mes saints, j'ai mes saintes, mes fées et mes esprits, ceux de l'air, de la terre, des arbres et des eaux. Je crois à la raison. Je crois aussi aux fous qui voient la vérité. Et je crois aux sorciers. J'aime bien penser que la terre suspendue se balance dans les nues. Et je voudrais toucher, démonter, remonter tous les beaux mécanismes de l'horloge du monde. Mais cela ne fait point que je n'aie du plaisir à écouter chanter les célestes grillons, les étoiles aux yeux ronds, et à épier l'homme au fagot dans la lune. Vous haussez les épaules. Vous, vous êtes pour l'ordre. L'ordre a bien son prix, mais il n'est pas pour rien et il se fait payer. L'ordre, c'est ne pas faire ce qu'on veut, et c'est faire ce qu'on ne voudrait pas. C'est se crever un œil pour mieux voir avec l'autre. C'est abattre les bois pour y faire passer les grandes routes droites. C'est commode, commode. Mais bon Dieu que c'est laid! Je suis un vieux Gaulois. Beaucoup de chefs, beaucoup de lois, tous frères et chacun pour soi. Crois si tu veux et laisse-moi, si je veux, ne pas croire ou croire. Honore la raison. Et surtout, mon ami, ne touche pas aux dieux. Il en boue, il en pleut, d'en haut, d'en bas, dessus nos nez, dessous nos pieds. Le monde en est gonflé, comme l'est Angésine. Je les estime tous, et je vous autorise à m'en apporter d'autres. Mais je vous défie bien de m'en reprendre un seul, ni de me décider à lui donner congé. À moins que le coquin n'ait par trop abusé de ma crédulité. Me prenant en pitié, Paillard et le curé demandèrent comment je pouvais retrouver mon chemin au milieu de ce tohu-bohu. « Je l'y trouve fort bien, » dis-je. « Tous les sentiers me sont familiers, je m'y promène à l'aise. Quand je vais seul par la forêt, de Chamou à Vézelay, croyez-vous donc que j'ai besoin de la grand-route ? Je vais, je viens, les yeux fermés, par les chemins des Bragonniers. Et si je suis peut-être arrivé le dernier, du moins j'apporte au gîte ma gibecière pleine. Tout y est à sa place, rangé, étiqueté. Le bon Dieu à l'église, les saints dans leur chapelle, les fées parmi les champs, la raison sous mon front. Ils s'entendent très bien. Chacun a sa chacune, sa tâche et sa maison. Ils ne sont pas soumis à un roi despotique. Mais, tels messieurs de Berne et leurs confédérés, ils forment tous entre eux des cantons alliés. Il en est de plus faibles, il en est de plus forts. Ne t'y fie pas, pourtant. On a parfois besoin des faibles contre les forts. Et certes, le bon Dieu est plus fort que les fées. Tout de même, il lui faut aussi les ménager. Et le bon Dieu tout seul n'est pas plus fort que tous. Un fort trouve toujours un plus fort qui le croque. Croquant croqué, oui da. On ne m'ôtera pas, voyez-vous, de l'idée que le plus grand bon Dieu, nul ne l'a encore vu. Il est très loin, très haut, tout au fond, tout au haut, comme notre sire roi. On connaît, trop, ses gens, intendants, lieutenants. Mais lui, reste en son Louvre. Le bon Dieu d'aujourd'hui, celui que chacun prie, c'est comme qui dirait Monsieur de Consigny. Bon, ne me bourre point, chamaille. Je dirais, pour ne point te fâcher, que c'est notre bon duc, Monsieur de Nivernois. Que le ciel le bénisse, je l'honore et je l'aime. Mais devant le seigneur du Louvre, il se tient quoi et fait bien. Ainsi soit. Ainsi soit, dit Paillard. Mais il n'est pas ainsi. Hélas, il s'en faut bien. En l'absence du seigneur se connaît le serviteur. Depuis que notre Henri est mort et le royaume en quenouille tombé, les princes jouent avec la quenouillette, la quenouilleuse. Les jeux des princes plaisent à ceux-là qui les font. Ces larrons vont pêcher dedans le grand vivier et vider le trésor de l'or et des victoires futures endormies dans les coffres de l'arsenal que garde Monsieur de Sully. Ah, que le vengeur vienne, qui leur fera cracher la tête avec l'or qu'ils ont mangé. Là-dessus, nous en dîmes plus qu'il n'est prudent de le noter. Car sur ce champ donné, nous étions tous d'accord, et nous fîmes aussi quelques variations sur les princes enjuponnés, sur les cafards empantouflés, les gras prélats et sur les moines fainéants. Je dois dire que Chamaille improvisait sur ce sujet des plus beaux chants les plus brillants. Et le trio continua de marcher en mesure, tous trois comme une voix, quand nous prîmes pour thème, après les mielleux, les fielleux, après les faux dévots, ceux-là qui le sont trop, les fanatiques de tout poil, huguenots, cagots, nigots, ces imbéciles qui prétendent, pour imposer l'amour de Dieu, le faire entrer à coups de trique ou bien de dague dans la peau. Le bon Dieu n'est pas un ânier pour nous mener par le bâton. Qui veut se damner? Qu'il se damne! Faut-il encore le tourmenter de son vivant et le brûler? Dieu merci, laissez-nous tranquilles. Que chacun vive en notre France et laisse vivre son prochain. Le plus impie est un chrétien, car Dieu est mort pour tous les hommes. Et puis, le pire et le meilleur, au bout du compte, ce sont deux pauvres animaux. Orgueil ne sied ni dureté. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Après quoi, fatigués de parler, nous chantâmes, entonnant à trois voix un cantique à Bacchus, le seul dieu sur lequel, moi, Paillard, le curé, nous ne discutions pas. Chamaï proclamait bien haut qu'il préférait celui-là à ses autres, que tous ces sales moines de Luther et Calvin et les prêchis-prêchats débitent en sermons. Bacchus, lui, est un dieu que l'on peut reconnaître, et digne de respect, un dieu de bonne souche, bien française, que dis-je, chrétienne, mes chers frères, car Jésus n'est-il pas, dans certains vieux portraits, parfois représenté en un Bacchus qui foule les grappes avec ses pieds? Buvons donc, mes amis, à notre Rédempteur, notre Bacchus chrétien, notre Jésus riant dont le beau sang vermeil coule sous nos coteaux et parfume nos vignes, nos langues et nos âmes, et verse son esprit doux, humain, généreux et railleur gentiment dans notre claire France, au bon sens, au bon sang. À ce point du discours, et comme nous choquions nos verres en l'honneur du gai bon sens français qui se rit de l'excès en tout, entre les deux s'assied le sage, d'où vient qu'il sied souvent par terre. Un grand bruit de portes fermées, de pas pesants dans l'escalier, de Jésus, de Joseph, d'Ave et de gros soupirs oppressés, nous annonça l'invasion de dame Héloïse Curé, comme on nommait la gouvernante ou la curée. Elle soufflait en essuyant sa large face avec un coin de tablier et s'exclama. « Oh là, oh là, au secours, monsieur le curé !»«
Hé, grosse bête, qu'y a-t-il ? »
demanda l'autre impatienté.
« ils viennent, ce sont eux !»«
Qui ? Ces chenilles qui s'en vont par les champs en procession ? Je te l'ai dit, ne parle plus de ces païens, mes paroissiens !»«
Ils vous menacent !»«
Je m'en moque. Et de quoi ? D'un procès devant l'official ? Allons-y, je suis prêt !»
Ah, mon monsieur, si ce n'était qu'un bon procès!
Qu'est-ce donc? Parle!
Ils sont là-bas, chez le grand pic, qui font des signes cabalistiques, des exorchismes, comme on dit, et qui chantent. Ça y est, mulots et hannetons, ça y est, des chants, allez manger dans le verger et dans la cave du curé!
À ces mots, Chamaï bondit.
Ah, oh, c'est maudit! Dans mon verger, leur hanneton, et dans ma cave? Ils m'assassinent! Ils ne savent plus qu'inventer. Ah, Seigneur, Saint-Simon, venez au secours de votre curé.
Nous tentâmes de le rassurer. Nous rions bien.
Riez, riez, nous cria-t-il. Si vous étiez à ma place, mes beaux esprits, vous ne ririez pas autant. Parbleu, je rirais aussi en votre peau. C'est bien commode. Mais je voudrais vous voir devant cette nouvelle et préparant table, cellier, appartement pour recevoir ces garnements. Leur hanneton, c'est écœurant, et leur mulot, je n'en veux pas, mais c'est à se casser la tête.
Eh quoi, lui dis-je, n'es-tu pas le curé? Que crains-tu? Désexorcise-toi. N'en sais-tu pas 20 fois plus que tes paroissiens? N'es-tu pas plus fort qu'eux?
Eh, je n'en sais rien. Le grand pic est très malin. Ah, mes amis, ah, mes amis, quelle nouvelle! Ah, les bandits! J'étais si bien, si confiant. Ah, rien n'est sûr. Dieu seul est grand. Que puis-je faire? Je suis pris. Ils me tiennent. Mon Héloïse, va, cours leur dire qu'ils s'arrêtent. Je viens, il le faut bien. Ah, les gredins! Quand, à mon tour, sur leur grabat, je les tiendrai. En attendant, fiat voluntas. C'est moi qui passe par leurs 36 volontés. Allons, il faut boire la coupe. Je la boirai. J'en ai vu d'autres. »
Il se leva, nous demandâmes.
« Où vas-tu donc ?»« À la croisade, » répondit-il. « Des hannetons.